Les cours du Collège de France, Histoire du monde indien, Gérard Fussmann.
Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai d'abord un certain nombre d'annonces à vous faire, si vous voulez bien. La première chose, c'est que la semaine passée, j'ai fait cours en anglais, ce qui est tout à fait normal au Collège de France. La seule chose que j'avais oubliée, c'est que le cours est diffusé sur France Culture et que France Culture ne diffuse pas l'anglais. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris le cours de la semaine passée, je recommence ce cours la semaine prochaine, donc le 6 avril, dans cette même salle, à 13h30. Ceux que ça intéresse pourront voir la différence entre les deux versions, la version française et la version anglaise. Mais voilà. Il faut parfois se méfier de la radio. La deuxième chose, c'est que ce soir, et plus exactement demain matin, ouvre au Grand Palais une grande exposition qui s'appelle La Voix du Tao. Ça n'est pas l'Inde, mais enfin, rien de ce qui est l'Extrême-Orient ne nous est étranger, donc il semble que ce soit une très belle exposition. Je vous invite à aller la voir. Par contre, ce qui est beaucoup plus proche de ce que je fais en séminaire, c'est l'exposition qui va ouvrir au Musée Guimet du 21 avril au 16 août sur le Gandhara, qui est une sélection de pièces essentiellement des musées du Pakistan, principalement Lahore et Peshawar. Donc, presque toutes les pièces sont connues depuis 100, parfois 150 ans. Vous les verrez de vos yeux propres. Ça change, c'est quand même pas la même chose qu'une belle photo, bien que le catalogue, en tout cas dans sa version allemande et dans sa version anglaise que j'ai vue, soit superbe. Mais c'est une occasion de voir ces pièces sans aller au Pakistan, et qui n'est pas un endroit très calme actuellement. Alors, je crois que je fais une conférence à Guimet à l'occasion de ça. Je ne sais plus quelle date, je vais essayer de la retrouver. Ça doit être au mois de mai ou au mois de juin. Ah oui, le jeudi 6 mai, à l'heure du déjeuner sur les origines de l'art du Gandhara. Et j'organiserai également probablement un mardi une visite commentée de l'exposition, mais celle-ci se fera en dehors de mes devoirs de professeur au Collège de France et sous ma casquette de président de la CECHAC, la Société européenne pour l'étude des civilisations de l'Asie centrale, et elle sera donc réservée aux membres de la CECHAC à jour de leurs cotisations, et les places seront limitées, il n'y aura pas plus de 25 personnes. Si la date n'est pas encore fixée, ce sera sans doute au mois de juin. Donc ça, c'est l'essentiel des annonces que j'avais à vous faire. Je crois que je n'en ai pas d'autres. Voilà, si l'on revient ça marche avec un meilleur appareil, ça marche mieux qu'hier quand même. Si l'on revient à ce que je vous disais la semaine passée en anglais, nous étions donc sur la fin de la pénétration indo-aryenne en Inde, qui est un événement majeur et est un événement sur lequel on discute beaucoup, à la fois du point de vue politique indien et puis, je pense, dans les années à venir, sur la reconstruction de ce qu'ont pu être les Indo-Européens, car la base des reconstructions faites sur les Indo-Européens, un mot que je ne devrais pas employer, je reviendrai dessus, se fait à partir du Veda, qui est le texte le plus compréhensible, bien qu'il soit hermétique, et le plus ancien, qui a été conservé d'un des groupes indo-européens. Il se trouve que vient de paraître, la semaine passée, je pense, un dossier de l'archéologie consacré à l'origine des peuples de l'Europe, qui s'appelle Les Indo-Européens, qui a été organisé par mon collègue Demoule, qui a été longtemps directeur et premier président de l'Institut national de recherche et d'archéologie préventive, et qui a essayé de réunir un certain nombre d'articles donnant une vue très balancée des choses, très équilibrée des choses. Alors, les vues très équilibrées des choses, ça a l'inconvénient que l'on donne le même poids à des choses sensées et des choses qui ne le sont pas. Alors, c'est un dossier de l'archéologie. Donc, il y a beaucoup d'articles sur l'archéologie qui sont des articles très bien faits, en général par des gens qui connaissent bien leur métier, mais qui posent un problème de fond sur lequel on est beaucoup revenu, sur lequel tout le monde est d'accord et tout le monde fait comme s'il n'existait pas. La reconstruction de ce qu'on appelle les langues indo-européennes est un travail de linguiste. C'est un travail de linguiste qui est tout à fait théorique et qui s'est développé dès le début du XIXe siècle, mais qui a pris un tour scientifique à partir de 1870 et de ce qu'on appelle l'école des jeunes grammairiens allemands. C'est à ce moment-là que l'on a posé les règles de la reconstitution qui travaille plus sur des lois phonétiques et des faits syntaxiques que sur le vocabulaire lui-même, le vocabulaire pouvant être emprunté. Et en plus, il y a toute une série de raisons qui permettent de croire que certains mots, par exemple, sont d'origine onomatopéique. Alors, si les mots sont d'origine onomatopéique, comme le nom du chien, ils peuvent se retrouver dans toutes les langues, évidemment, puisque le chien aboie à peu près de la même façon dans toutes les régions du monde. La reconstruction auxquelles on aboutit à des faits qui remontent. D'abord, ça aboutit à reconnaître quelles sont les langues qu'on peut appeler indo-européennes, c'est-à-dire qui fonctionnent d'une façon tellement proche les unes des autres qu'on peut supposer qu'elles ont une origine au moins partielle commune. Et cette origine est toujours partielle parce qu'il y a toujours eu des contacts entre langues. Quand il y a des contacts entre langues, il y a toujours des emprunts d'une langue à l'autre. Et d'autre part, cette reconstruction nous amène à peu près un ou deux millénaires avant la plus ancienne langue indo-européenne connue par l'écriture, c'est-à-dire le hittite, qui est elle-même une langue un peu divergente. Donc on arrive à peu près à 3000 avant notre ère. Mais c'est une reconstruction tout à fait théorique. D'abord parce qu'elle ne s'appuie que sur les faits communs. Et donc, tout ce qui n'est pas commun et qui est la majorité des faits linguistiques de chacune de ces langues est laissé de côté. Et d'autre part, parce qu'il n'y a aucune profondeur historique. On ne sait pas à quel moment ni où les changements qui ont abouti à la dispersion des langues indo-européennes et qui font que l'anglais n'a pas grand-chose à voir avec le sanskrit, bien qu'ils aient une origine commune il y a environ 3000 ans, on ne sait pas exactement quand ces changements se sont produits avant l'invention de l'écriture. Vous avez sur tout ceci un excellent article, pas très facile à lire, mais enfin possible quand même, de M. Tremblay dans le volume sur les Aryas publié à l'Institut d'études indiennes. Donc, par ailleurs, les linguistes sont toujours interdits de parler à propos des Indo-Européens, de peuples indo-européens. Pour une raison très simple, c'est que si vous regardez la population française actuelle et ses divers ancêtres, vous voyez très bien que parmi les gens qui parlent aujourd'hui le français, D'abord, il y en a qui n'appartiennent pas à la France, ne serait-ce que les Belges, les Québécois et un certain nombre de gens originaires des États d'Afrique qui ont été colonisés par la France ou même d'Asie. Ensuite, à l'intérieur même de la France, vous avez énormément de bilingues. Et des bilingues naturels, c'est-à-dire soit des immigrés de la première génération qui ont gardé leur langue maternelle et qui ont acquis le français et qui parlent essentiellement en français, soit des enfants d'immigrés qui ont gardé une partie de leur langue maternelle et qui ont été élevés en français. Et cette situation, on peut la reporter dans le passé à n'importe quel moment, parce que nous savons que même dans des époques très anciennes, les groupes cherchaient des femmes en dehors du groupe propre, qu'il y avait des razzias de femmes, qu'il y avait des viols, je suppose qu'il y avait aussi des adultères, et que donc il y a eu toujours dans tous les groupes un minimum de gens qui étaient bilingues. Quand un Mongol rasiait une femme, disons persane, au XIe siècle, il est évident que la femme persane continuait à parler persan et son mari mongol, le Mongol, et qu'à un moment donné, ils devaient quand même se parler. Donc, c'est une situation qui est extrêmement complexe et ce n'est pas le problème des linguistes. Cette invention indo-européenne a fait que malgré malgré les avertissements donnés par les linguistes, les historiens, les archéologues, et puis il faut bien le dire, un certain nombre de linguistes, sont partis du principe qu'il n'y a pas de langue sans quelqu'un qui les parle, et que donc, s'il y avait une langue indo-européenne, c'était qu'il y avait des indo-européens. Et cette conception a été très développée en Allemagne en particulier, avec des aboutissements qui n'ont pas été très drôles, si j'ose dire. Le pire étant celui de l'Allemagne nazie, mais ça a commencé en Allemagne avec le pan-germanisme dès le 19e siècle, dès la moitié du 19e siècle. Les autres pays, la France et la Grande-Bretagne, ont été un tout petit peu épargnés par cela, parce qu'ils ne pensaient pas que les Germains étaient les meilleurs représentants des Indo-Européens. Et les archéologues, en particulier, ont essayé de corréler les cultures archéologiques qu'ils découvraient, c'est-à-dire les assemblages d'artefacts, comme aiment dire les archéologues, la poterie, les silex, etc., avec un groupe linguistique, puisqu'on sait par les cartes linguistiques qu'à partir d'un certain moment donné, il y a eu des Hittites en Asie mineure, il y a eu des Grecs en Grèce, il y a eu des Latins en Italie, et des Germains surtout en Allemagne, et donc on a essayé de corréler en particulier les cultures trouvées à l'est du Rhin, dans les territoires germaniques et les territoires russes, avec les Indo-Européens. Les Allemands en sont un peu revenus, les Russes sont tout à fait là-dedans, puisqu'ils sont sûrs d'être, en tout cas un certain nombre d'archéologues russes, sont sûrs d'être descendants des Indo-Européens. Le problème, c'est qu'il n'y a strictement aucun moyen d'apporter une preuve de cette corrélation entre une culture archéologique et une culture et une langue, sauf à supposer qu'il n'y ait eu aucun peuplement avant les Indo-Européens. Or, on sait qu'il y a eu des peuplements, ne serait-ce que parce que tous les textes anciens en langue indo-européenne parlent de mouvements et parle de guerre. Et il est clair que les gens qui parlaient une langue indo-européenne ne se sont jamais installés dans des territoires entièrement vides. Une autre preuve, c'est qu'on a dans tous ces endroits des cultures qui sont antérieures à celles attribuées aux Indo-Européens. Alors, vous avez deux solutions. Ou bien vous continuez à faire comme les linguistes et dire tout ceci, c'est du rêve, c'est pas de la science. Ou bien vous continuez à faire comme les archéologues et à dire si, si, il doit pouvoir y avoir une corrélation. Vous avez dans cet article, dans ces dossiers d'archéologie, les deux grandes thèses en présence. Celle de Mallory, qui est un type, qui est un américain, mais installé à Belfast, qui est tout à fait raisonnable. Et puis celle de quelqu'un qui est beaucoup plus connu, qui s'appelle Renfrew, qui est l'un des fondateurs de la chaire d'archéologie de Cambridge, mais qui travaille comme à Cambridge sur le sensationnel pour obtenir des financements privés en particulier, et dont je dirais que dans un autre contexte non universitaire, on pourrait l'appeler quasiment un escroc, tellement les raisonnements sont contestables, alors qu'il connaît très bien les données et des langues et de l'archéologie. Mais il faut faire du sensationnel, donc on fait du sensationnel. Donc vous avez des articles bien illustrés qui résume ça. Vous avez deux articles qui résument la position linguistique que je vous ai donnée, et vous en avez encore un meilleur dans un livre aussi publié par De Moule sur la révolution néolithique dans le monde, un petit article de M. Auroux qui vous indique pourquoi en linguistique on ne peut pas remonter jusqu'à l'origine du langage et qu'on ne peut pas remonter au-delà de 5000 ans avant notre époque, à peu près 5-6 000 ans. Et puis, il y a dans cet article, je ne sais pas pourquoi, qui est consacré à l'origine des peuples de l'Europe, un article qui, lui, est une véritable escroquerie intellectuelle de M. Danino sur l'anthropologie, sur les migrations aryennes en Inde. Alors, M. Danino est un amateur, mais c'est surtout quelqu'un qui vit en Inde depuis très longtemps, et qui a épousé les thèses nationalistes, ultranationalistes indiennes, disant qu'il n'y a pas eu d'invasion aryenne en Inde et que le sanskrit a toujours été parlé en Inde. Ceci avec une assez bonne information, mais deux travers qui se démontent assez facilement. Si ça vous intéresse, j'ai fait un long compte-rendu du livre dont cet article est extrait dans le journal asiatique de 2007. La première chose, c'est que M. Danino part d'une vue très ancienne des invasions indo-ariennes de l'Inde, qui est une vue tellement ancienne et tellement passée dans la littérature que j'emploie le mot également, mais qui est complètement dépassée. On ne parle plus maintenant d'invasion. On parle de migration. Il faut quand même que vous voyez la situation. Nous sommes, disons, aux alentours de 1000 avant notre ère, dans des régions qui sont très boisées, très peu peuplées et sans frontières nationales. Les Indo-Aryens, enfin les gens qui parlaient la langue qui allait devenir la langue du Véda et puis le sanskrit, qui poussaient leurs troupeaux en Bactriane vers le sud, n'avaient pas de carte. Ils n'avaient absolument aucune information sur ce qu'il y avait, très peu d'informations, puisqu'il y avait quand même des relations entre Harappa et la Bactriane, mais on peut supposer qu'ils avaient très peu d'informations sur ce qu'il y avait plus au sud. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il y avait des territoires fertiles, des forêts, de l'eau et des pâtures. Ils poussaient leurs pâtures, leurs troupeaux vers le sud. Quand ils sont arrivés en Afghanistan, il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de poteau indicateur pour leur indiquer qu'ils arrivaient en Inde. Quand ils sont arrivés à hauteur de Peshawar, il n'y avait personne pour leur demander leur passeport et leur dire qu'ils étaient en Inde. Il n'y avait pas de douaniers ni de barrières qu'ils devaient enlever. pour eux, l'Inde n'existait pas. Il n'y avait pas de pays. Et c'est donc simplement une migration qui s'est heurtée de temps à autre aux peuples déjà existants qui étaient extrêmement parsemés. On peut très bien imaginer qu'il y avait assez de place pour tout le monde. Et comme je vous l'ai dit la semaine passée, il y a longtemps maintenant que l'on sait que les grandes villes du Punjab, Arapa, Mohenjo-Daro, ou du Rajasthan, comme Kalibangan, ou même Lotal, étaient en très grande partie dépeuplées quand s'est produite la migration indo-aryenne. Par ailleurs, cette migration, c'est pas du tout. Si l'on réfléchit, disons, a posteriori, c'est certainement pas un seul groupe. Ce sont des groupes divers, sous des chefs divers, ce qui apparaît bien dans le Rig Veda, qui sont passés par des routes diverses. Si nous les réunissons sous un seul nom, c'est parce qu'ils parlaient une même langue et qu'ils avaient à peu près la même religion. Et l'on voit ça très bien, d'une part, dans ce qu'est le Rig Veda, c'est-à-dire qui est une réunion d'hymnes différents et parfois dialectalement différents, de très légères différences dialectales, mais elles existent. Et elles existeront également plus tard dans les prakrites indiens. Et puis on voit aussi très bien que les rites n'ont été unifiés que beaucoup plus tard et que même, très probablement, les hymnes du Rig Veda ont servi à pratique rituelle qui n'était pas du tout la même que celle des Brahmanas, celle que... c'est ce que M. Esterman, le grand savant néerlandais, a appelé une espèce de révolution. Donc, ce sont des migrations de groupes parlant des langues diverses, s'imposant par la force si nécessaire, mais on ne voit pas que la force seule ait pu imposer le développement de l'indo-aryen sur tout le nord de l'Inde et ensuite sur le sud. On a une expérience historique, c'est justement la progression des langues issues du sanskrit vers le sud. Elle ne doit pas grand-chose à la force. Dans tous les cas où l'on a quelques indications sur la façon dont les langues issus du sanskrit ont remplacé les langues qui préexistaient, qui d'ailleurs dont certaines existent encore, c'est soit parce qu'il y a eu une unification politique et que le système politico-administratif privilégiait l'emploi de cette langue, soit sous une influence religieuse, que celle-ci soit brahmanique ou bouddhiste. Des pays, vous avez même encore une espèce d'autre exemple, qui est l'exemple des pays de l'Indochine, qui n'ont pas changé de langue à cause du bouddhisme, mais qui ont incorporé dans leur vocabulaire un très très grand nombre de traits pali, prakrit, parce que la langue utilisée dans les textes sacrés encore maintenant au Cambodge et en Thaïlande est le pali, avec donc énormément d'emprunts, de même qu'il y a dans le français des emprunts au latin. Le français étant lui-même issu du latin, ou plus exactement de ce qu'on appelle le proto-roman. Et vous savez que le français emprunte sans arrêt au latin, de même qu'actuellement le hindi, issu très lointainement du sanskrit, emprunte très souvent au sanskrit. Donc, lorsque M. Danino combat l'idée d'invasion indo-aryenne ou d'invasion aryenne, il enfonce des portes ouvertes. On sait depuis longtemps qu'il n'y a pas eu un Napoléon indo-aryen qui a envoyé ses troupes pour prendre un Moscou indien. Ça n'existe pas. Ça, c'est une première chose. C'est très facile de démolir une thèse quand on la déforme. La deuxième chose, c'est qu'il revendique quelque part le mot Arya en disant que c'est un mot sanskrit et qu'en sanskrit, il a un mot il a un sens très particulier qui signifie noble, etc. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, mais ce qu'il oublie complètement, justement parce que c'est un amateur, c'est qu'à côté du Rig Veda, vous avez tous les textes iraniens qui n'ont pas été influencés du tout par le Rig Veda, que dans le Rig Veda, la situation du mot Arya est relativement bien connue. On peut parler une langue comme le sanskrit védique et faire des rites qui ressemblent à ceux des autres tribus, disons, védiques, sans être un Arya. L'Arya est plutôt celui qui a pour dieu principal Indra. Et par la suite, évidemment, ce culte étant devenu majoritaire, c'est devenu l'épithète des nobles, c'est devenu l'épithète des brahmanes, et c'est même devenu l'épithète des bouddhistes. Vous savez que les quatre saintes vérités du bouddhisme, ça s'appelle Arya Satya. Et dans les textes de Bharat dont je parle de temps à autre en deuxième heure, l'un des titres des moines bouddhistes, c'est Arya. Donc là, on suit très bien la séquence de l'évolution du terme Arya, qui est maintenant revendiquée par les nationalistes indiens comme étant celle des vrais indiens. Mais à côté, dans le Rig Veda, dans l'Avesta et dans les textes vieux perses de Darius, le mot arien existe également. Et le titre de Darius, le roi Achéménide, c'est roi des ariens et des non-ariens. Et Aryanam, c'est-à-dire le génitif de Aryan, est l'étymologie tout à fait évidente depuis toujours du mot Iran. Les tribus qui parlaient vers 2000 avant notre ère ou 1500 avant notre ère la langue qui allait devenir l'iranien ancien ou les multiples dialectes de l'iranien ancien, ces tribus, elles se donnaient le nom d'Arya. Donc Arya, ce n'est pas un mot indien, c'est un mot qui est indo-européen. Et on en a une troisième preuve, c'est qu'il existe une tribu iranienne de langue, mais qui n'a jamais mis les pieds en Iran, qui s'appelle les Alam, hein, qui est un des groupes des invasions barbares. L'étymologie du mot Alain est une étymologie tout à fait évidente, ça vient du mot Arya, avec un changement de R à L, exactement comme celui que l'on rencontre en sanskrit, exactement dans les prakrites, en sanskrit et dans les prakrites au Magadha. Donc, on a là un très vieux terme. L'erreur des linguistes du 19e siècle et une bonne partie du 20e siècle a été de croire que, puisque c'était un terme indo-iranien, c'était le nom que que les Indo-Européens, avant qu'ils se séparent, se donnaient. Et donc, dès le 19e siècle, on a, par commodité, plutôt que d'employer le mot Indo-Européen, on a employé le mot Arya pour toutes les populations, disons, antérieures au deuxième millénaire avant notre ère, qui parlaient une langue Indo-Européenne, c'est-à-dire une des langues qui allait devenir du germanique, du gothique, du grec, du hittite, du latin, de l'iranien et de l'indien. Or, ce n'est pas vrai. Il semble que Arya soit limité aux indo-iraniens, même si l'étymologie est indo-européenne. Il n'est pas attesté ailleurs que dans les langues dont j'ai parlé. Et mon collègue Kellens, justement, dans le volume là, dont je fais l'éloge sur les Aryens en Asie centrale et en Iran, a montré que dans tous les textes iraniens, Aryens désignaient les Iraniens par opposition aux non-Iraniens, y compris les Indiens. Donc on ne peut pas dire que le mot Arya, les Indiens, il est toujours connu. Le mot Arya, c'est justement la preuve qu'il y a eu pénétration en Inde de populations qui ne... comment qui originellement, dont l'habitat originel était extérieur à l'Inde. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que M. Danino, par ailleurs, qui sait beaucoup de choses par ailleurs, devrait aussi savoir, à mon avis, sait également, mais refuse d'admettre. Alors évidemment, quand on présente les thèses des gens qui parlent de pénétration indo-arienne en Inde, quand on les présente de façon biaisée comme ça, évidemment, c'est relativement facile à démolir. Malheureusement, la présentation est fausse. Et volontairement fausse, à mon avis. Et ça aboutit, alors que la thèse arianisante n'est pas du tout raciste, ça aboutit à une présentation raciste des choses, disant que seuls les descendants des Ariens sont de vrais hindous, et que, évidemment, les descendants des musulmans, eux, sont des sémites et n'ont rien à faire en Inde. Alors, évidemment, vous pouvez me dire, oui, mais la thèse de l'arianisation, ça a été une thèse que les historiens du XIXe siècle, colonialistes comme ils étaient, ont pris pour argent comptant et ont utilisé pour justifier leur colonisation en Inde. Première des choses, quand on regarde l'histoire, la présence des Britanniques et des Français en Inde, elle est là pour des raisons commerciales, parfois militaires, mais vraiment, aucun des chefs de guerre qui sont établis dans la région de Madras, dans la région de Bombay ou au Bengale n'a jamais dit « je viens voir mes cousins ariens et nous allons former ensemble un grand empire arien ». Ils ne savaient pas ce que c'était. Hein. Nous parlons dans les livres de la grande découverte de William Jones, la société asiatique du Bengale. D'ailleurs, la découverte avait été faite avant lui, de la parenté entre le latin, le persan, le grec et les langues indiennes. Mais ça, c'était une poignée d'intellectuels. Et ne croyez pas que, de même que les gens qui sont aujourd'hui à l'Élysée ont sans doute autre chose à faire qu'à écouter le cours que je vous donne, les gens qui dirigeaient le Bengale à la fin du XVIIIe siècle avaient sans doute autre chose à faire qu'à écouter M. William Jones, même si, ne disposant ni de la télévision ni du cinéma, quand ils s'ennuyaient, ils allaient peut-être écouter une conférence de l'Asiatic Society. Et à l'époque, c'était vraiment des choses très, très peu élaborées. Mais les intellectuels britanniques qui ont découvert ça en Inde au début du XIXe siècle ont effectivement pensé qu'il y avait un lien de parenté entre, disons, les Indo-Européens d'Europe et les Indo-Européens d'India. Ils les ont considérés comme des cousins. Vous avez un livre de M. Trottmann qui est tout à fait remarquable là-dessus. Jusque vers 1850, la notion d'Arya est utilisée pour dire que les Indiens qui parlent des langues issues du sanskrit, et en particulier ceux qui conservent le sanskrit, c'est-à-dire les pandites, sont en fait des cousins des Européens, que l'évolution a séparé des Européens et que un certain nombre de réformes pourraient rapprocher des Européens en liquidant tout ce qui était peu rationnel aux yeux des savants du XIXe siècle, qui tous étaient en plus très religieux, c'est-à-dire en particulier le polythéisme. Et c'est ce qui explique qu'un des réformateurs indiens dont Madame Bhattacharya vient de faire la biographie dans le livre qu'elle a publié à l'Institut d'études indiennes, Ram Mohan Roy, qui est un des premiers réformateurs indiens du début du XIXe siècle, qui est le fondateur d'une société qui perdure le Brahmo Samaj, et qui justement essayait de rétablir un monothéisme derrière le polythéisme du Rig Veda et de, si vous voulez, de mettre à jour la religion hindoue, ça explique qu'il ait été si bien reçu en Europe. Il a fait un voyage en Europe dans les années 1840. Il a été reçu partout à bras ouverts. Et tout simplement parce que c'était, pour les gens du XIXe siècle, l'espérance d'un avenir nouveau pour tous ces peuples qui avaient été éloignés de l'Europe par l'histoire et qui, maintenant, allaient constituer, grâce à l'apport des Lumières, grâce à l'apport intellectuels de l'Europe, y compris d'ailleurs celui des pasteurs et des curés, quelque chose tout à fait comparable à ce que l'on... une fraternité tout à fait comparable à celle qui pouvait exister malgré les guerres entre les Français, les Anglais et les Allemands. Ça, ça dure à peu près jusque vers 1850. C'est jusque vers cette époque également, les officiers britanniques qui avaient épousé des indiennes par le sang, si j'ose dire, des gens comme Skinner, sont des gens qui sont bien vus de l'establishment britannique. Et leurs enfants également. Ça change à partir de 1850 à cause, en particulier, de la révolte dite des Sipayes en 1857, où les Britanniques se sont aperçus que, après près d'un siècle de domination, c'était bizarre, mais les Indiens ne les aimaient pas, où ils se sont aperçus que les Indiens étaient des gens cruels, je reviendrai là-dessus, et qu'il y avait des massacres. Et il y a donc eu un très profond, littéralement dégoût, de la population indienne parmi les dirigeants britanniques, et en particulier parmi les dames blanches. À cela s'est ajoutée la vogue en Europe des théories anthropologiques raciales avec la pureté du sang et la définition de types raciaux où, bien entendu, le vrai Européen était un grand blond aux yeux bleus, exactement comme un bon Britannique d'origine normande ou anglo-saxonne. Et à partir de ce moment-là, les mariages entre Indiens et Britanniques d'origine ont été fortement déconseillés. Les Britanniques qui étaient mariés à des Indiennes ont été exclus de la société, leurs enfants encore plus, ils le sont toujours d'ailleurs. Et on a envoyé tous les ans des convois de jeunes filles britanniques chlorotiques se faire épouser par les célibataires britanniques en Inde. Et les enfants des familles, comme par exemple Kipling, qui est né en Inde et qui est mettant en Inde, quelqu'un comme Kipling, comme tous les enfants de cette époque, étaient envoyés à l'âge de 4-5 ans dans un internat britannique. Il n'est revenu en Inde que 20 ans pour ne pas être amolli par les mœurs indiennes et en particulier par sa nourrice indienne. C'est à ce moment-là que le racisme s'est établi et il n'avait pas grand-chose à voir avec les Aryens. Alors, quant au niveau de la cruauté des Indiens que vous trouverez dans tous les livres, il est vrai que lorsque vous lisez un certain nombre de récits de la mutinerie, par exemple sur le massacre d'un certain nombre de femmes et d'enfants, ensuite découpés en morceaux et jetés dans le puits noir de Kanpur, comme on dit, c'est tout à fait vrai. Mais ce qu'on ne lit pas en général, c'est les récits de la répression qui ont suivi par les troupes indiennes fidèles aux Britanniques et commandées par des Britanniques. Et cette répression, elle a été aussi affreuse. Aussi affreuse. Les massacres du même genre et les pendaisons en série n'ont pas manqué. Alors, il y a eu quelques gens qui ont été envoyés en prison, mais il y en a beaucoup qui ont été tués de manière pas très jolie. D'ailleurs, tuer quelqu'un, ça n'est jamais joli. Donc, n'oubliez pas non plus que c'est l'époque de la colonisation et que la colonisation britannique, ailleurs qu'en Inde, aussi bien que la colonisation française, ça n'a pas été une affaire d'enfant de cœur. Donc, voici pour cela. Bon, moi, je veux bien qu'on publie des articles comme celui de M. Danino. Après tout, ça peut être assez drôle. Mais alors qu'il y a un équilibre, par exemple, entre l'article de Mallory et celui de Renfrew, qui se parle du même sujet avec des conclusions différentes, on aurait dû donner à M. Danino une contrepartie un peu plus sérieuse. Alors, la contrepartie, elle existe, mais il faut le savoir, ce sont les deux articles sur les langues indo-européennes qui sont des articles tout à fait corrects. Et l'article de M. Auroux dans ce petit volume est, encore plus clair. Voici donc pour Voici donc ce que j'avais à vous dire pour revenir sur les Indo-Européens. Et nous nous trouvons maintenant à une époque où les Indo-Européens semblent avoir conquis, disons, vers le 8e siècle avant notre ère ou vers le 7e siècle avant notre ère, à peu près tout le nord de l'Inde. Conquis, en tout cas, être établi. Vous voyez, les mots sont... Essayez de vous trouver des choses. Si vous prenez une carte du nord de l'Inde, ce que l'on suit dans les textes et dans la carte linguistique, c'est une expansion des Indo-Aryens qui arrive par plusieurs des multiples cols de l'Hindou-Kouche et qui, bien entendu, pénètre d'abord au Punjab, dont les rivières sont nommées dans le Rig Veda, toutes les rivières, probablement également par le Sindh. Et le Rig Veda s'arrête au nom des rivières du Punjab. Il n'y a rien, si vous voulez, à l'est d'Ambala ou à l'est de Delhi. À la rigueur, si vous voulez, vous pouvez vous dire que le Rig Veda correspond à l'occupation de ce qui est aujourd'hui le Pakistan, à peu de choses près. Vous avez des textes qui sont jugés plus tardifs, par la langue et aussi par les conceptions religieuses, les Brahmanas et les Upanishads. Et à ce moment-là, dans ces textes, d'autres noms de lieux et de rivières, surtout de rivières, apparaissent et on arrive au 8e siècle avant notre ère, peut-être au 7e, et grâce à ces noms, on peut considérer que toute la vallée de l'Indus et la vallée du Gange à peu près jusqu'à la frontière du Bengale. Cette partie-là a été à réaliser beaucoup plus tard, que toute cette partie-là est peuplée de groupes indo-aryens parlant en fait le sanskrit qui vont imposer leur domination politique et linguistique. Je dis ceci parce que la seule source que nous ayons, ce sont ces textes eux-mêmes. Et ces textes eux-mêmes ne nous permettent pas de savoir quelles autres populations il y avait sur place, ni comment la domination s'est imposée. Nous ne jugeons que d'après les textes. Et c'est pour cela que dans le chapitre anciens ou des histoires anciennes de l'Inde, vous avez l'Inde brahmanique et l'Inde védique, c'est-à-dire que les auteurs qui ont écrit ces chapitres dans tous les manuels étaient bien conscients que la description de l'Inde qu'ils donnaient dépendait des sources qu'ils utilisaient. Il n'y avait pas d'autres sources que les sources brahmaniques et les sources plus tard bouddhique. Et donc, vous avez une inscription de l'Inde, une description de l'Inde brahmanique dans quasiment tous les manuels. Et si vous lisez les manuels récents, la description reste la même, mais le titre change. Le titre change pour une raison très simple, c'est qu'on sait très bien que l'Inde n'a pas été toujours uniquement brahmanique, puisqu'il y a encore des régions dont on ne peut pas dire qu'elles soient entièrement sanskritisées, mais aussi parce que l'archéologie de la civilisation de l'Indus a apporté beaucoup de faits. Je vous avais dit qu'on suivait l'évolution de la situation, de la création des grandes villes de l'Inde, de la civilisation de l'Indus, c'est-à-dire en gros Mohenjo-Daro et Harappa, maintenant sur cinq millénaires, puisque nous avons des premiers établissements fouillés à Mergar par les Jarige au 7e millénaire avant notre ère, et que maintenant on arrive à avoir pour le Pakistan une séquence à peu près complète jusqu'à 2000 et même 1700, c'est Pirak. Donc ceci prouve qu'il y avait une population relativement abondante et, disons, autochtone, si le mot veut dire quelque chose. Donc on ne peut pas dire que les Indo-Ariens sont arrivés dans un endroit vide. Et puis, les fouilles qui ont été menées depuis la Seconde Guerre mondiale ont également montré que si ces villes disparaissaient apparemment de leur belle mort, on ne sait pas pourquoi, il y a des dizaines de théories, mais ça reste des théories, on suivait l'expansion de cultures archéologiques très proches de celles de Harappa, c'est-à-dire même type de poterie, des traces d'écriture, des systèmes de poids et mesure à peu près semblables, une urbanisation à peu près semblable. On la suivait beaucoup plus au sud, ici, dans la province du Kathiawar, au Gujarat, et également dans le nord du Punjab et le nord du Rajasthan. Et que, manifestement, il y avait une diffusion de population, et que donc on ne peut pas dire que les Indo-Ariens soient arrivés dans une Inde vide et qu'ils l'aient peuplée et qu'ils y aient prospéré et que donc leur langue et leur culture religieuse s'y soient développées sans aucun problème. L'accroissement de la population de l'Inde a certainement commencé avant l'arrivée indo-arienne. Et cet accroissement a dû être énorme. Énorme. Énorme, non pas au moment où ils arrivent, c'est-à-dire vers 1500 ou 1400, mais à partir des années 1000. Et en fait, si l'on veut raisonner en historien, nous sommes dans le noir absolument total de leur arrivée jusqu'à ce que les historiens indiens appellent la deuxième urbanisation, c'est-à-dire le deuxième moment où il y a de grosses villes en Inde, c'est-à-dire le moment où apparaissent de grandes métropoles comme Pataliputra, Patna, comme Kaushambi, qui est à côté d'Allahabad, ou, ou comme même Taxila, c'est-à-dire l'actuel Islamabad au Pakistan, l'apparition de ces grandes villes qui est bien documentée et qui est bien documentée par l'archéologie et qui n'apparaît pas avant le 600 avant notre ère, en gros. Et la raison pour laquelle nous sommes en fait dans le noir total, c'est parce que, bien qu'il y ait eu des fouilles en Inde, il est, comme je vous l'ai dit, impossible de corréler des cultures matérielles avec des noms de peuples quand ces peuples sont des peuples sans écriture. Et donc, c'est d'autant plus difficile que les Indiens, l'archéologie indienne, à quelques exceptions près, en est resté au précepte qu'avait formulé Sir Mortimer Wheeler en 47-48. L'Archaeological Survey of India, comme je vous l'ai dit, était en très très mauvaise posture déjà avant la guerre. Il y avait eu un rapport de... L'Inde était une colonie britannique à l'époque. Il y avait eu un rapport très, très incisif de Leonard Woolley sur le système de l'Archaeological Survey. Et dès avant la guerre, les Britanniques avaient décidé de réformer ce département, je ne sais pas comment appeler, ce service qui en fait ne comptait qu'un directeur britannique, Sir John Marshall, qui était en place depuis plus de 30 ans, et un ou deux collaborateurs britanniques, et puis quelques collaborateurs indiens, extrêmement brillants, mais très peu nombreux. Et en particulier, le système de l'Archaeological Survey of India en était resté au niveau de l'archéologie classique des années 1910, alors que pendant, entre les deux guerres mondiales, l'archéologie européenne avait développé des techniques pour l'utilisation, enfin pour l'exploration des sites préhistoriques. Donc on a envoyé Sir Mortimer Wheeler en Inde. Il a ouvert des chantiers. Il a d'abord recruté des gens. Il les a recrutés à un niveau de 2 ans. À un niveau baccalauréat indien ou anglo-indien, comme vous voulez, et il a organisé des chantiers de fouilles qui sont, selon le système qu'il avait inventé, le système des carrés de 4 mètres sur 4 avec des bermes d'un mètre entre les carrés, et sur la paroi des bermes, on lisait la stratigraphie. Et il s'est fixé deux objectifs. Là, il était très, c'était très moderne à l'époque. C'était la technique de fouille la plus moderne de l'époque. Et il a été aussi très objectif, très très moderne, en disant que l'archéologie, si elle voulait être une science, devait se fixer des objectifs. Il s'est fixé deux objectifs. Le premier, c'était de faire d'établir la stratigraphie des sites archéologiques indiens afin d'avoir une typologie de la poterie qui permette de dater tous les sites sans écriture. Donc, il aura appris à faire des fouilles stratigraphiques sur un certain nombre de sites, et sur la fin de son séjour, il a entrepris des fouilles sur les sujets qui l'intéressaient plus particulièrement. Et ces sujets, c'était des sujets très coloniaux. C'était l'arrivée des Indo-Européens, comme je vous l'ai dit, donc fouille de Harappa Mohenjo-Daro, où il a essayé de trouver que les Indo-Européens avaient massacré tous les Dravidiens et s'étaient imposés par la force. Les fouilles de Taxila pour reprendre la stratigraphie de son ami ennemi Sir John Marshall. C'était une petite fouille stratigraphique, mais très importante. Les fouilles de Charsada, parce que c'est une ville que Alexandre est censé avoir pris d'assaut. Il était très content d'avoir retrouvé le fossé de la ville de Charsada. Et puis les fouilles d'Arikamadu Pondichéry, puisque c'était le meilleur exemple du commerce romain vers l'Inde. Et puis l'Inde étant devenue indépendante, on a dit à M. Wheeler, maintenant nous avons nos propres archéologues, au revoir, partez. Il est encore resté un an au Pakistan, où on lui a dit également la même chose. C'est un homme qui ne comprenait pas que les temps avaient changé. Mais le problème, c'est que l'Archaeological Survey of India a continué et continue en grande partie sur le programme Wheeler, c'est-à-dire des fouilles stratigraphiques. Il y a très peu de fouilles horizontales. Et la technique Wheeler, alors que les techniques ont changé maintenant, que par ailleurs, les archéologues sont devenus des spécialistes de la conservation des sites, parce que l'archéologie est actuellement non seulement un des grands fournisseurs de sites touristiques, mais c'est également un des outils que chaque gouvernement utilise pour bien se faire voir à l'UNESCO et montrer qu'il est moderne. Et donc, les archéologues indiens passent leur temps, d'une part, à conserver les sites, ce qu'ils font relativement bien. C'est très joli, si vous voyez les sites indiens actuellement conservés par l'Archaeological Survey of India. Ce sont de très jolis jardins archéologiques, comme ils disent, et à répondre aux interpellations à la Chambre. Et ils sont toujours formés à un niveau de recrutement niveau bac en France, plus deux années, c'est-à-dire sans formation universitaire, avec un énorme retard de publication et aucune synthèse. Donc si vous voulez une synthèse, il faut que vous la fassiez vous-même, il y a très très peu de synthèses. Je vous parlais de ce volume « La révolution néolithique dans le monde ». Si vous regardez un peu les articles, vous verrez que ce qu'on appelle la révolution néolithique, c'est-à-dire l'apparition simultanée de l'utilisation d'outils faits de pierres très, très petites, des outils composites faits de pierres composites, parfois de la poterie, simultanée sur un, deux, trois millénaires, de la domestication des animaux et de la culture des plantes. Bon, ceci apparaît vers 7000 ans ou 8000 ans au Proche-Orient. Et on a maintenant de bonnes synthèses, dont celle-ci, mais ces synthèses correspondent à 50 ans de fouilles faites par de très très nombreuses missions archéologiques, soit locales, soit très souvent étrangères, américaines, française, allemande, en particulier à l'occasion des grands travaux d'urgence, lorsqu'il fallait, par exemple, lorsqu'on érigeait un barrage, et qu'il y a toujours eu, derrière ces missions archéologiques, un universitaire qui réfléchissait à ce que ça signifiait sur le plan historique. Donc il y a eu toujours des essais de synthèse par des universitaires. Il y a eu plusieurs essais de synthèse, et on arrive maintenant à une vue relativement synthétique des choses et relativement vraisemblable. Il y a encore beaucoup de points noirs, mais en tout cas, on a quelque chose. C'est le travail de 50 ans, de centaines de savants, avec toujours derrière l'obsession de produire une synthèse. En Inde, où la présence de missions archéologiques françaises, disons, n'est pas étrangère en général, n'est pas tellement souhaitée. Il n'y a guère que les Indiens qui fouillent et les problématiques européennes ou américaines, d'une part, et la volonté de synthèse et de publier n'existent pas pour l'instant. Donc, il est possible que si quelqu'un se mettait à rassembler tous les documents que nous avons sur cette période, avec maintenant des datations relativement fiables grâce en particulier au carbone 14, on arrive à une synthèse. Mais pour l'instant, on n'a que des éléments dispersés. Alors, sur ces éléments dispersés, j'en parlerai la semaine prochaine et je vous dirai également pourquoi, quoi qu'en disent un certain nombre de collègues indiens, mais pas tous, les Indo-Aryens quasiment jusqu'à l'arrivée des Mauryas, c'est-à-dire quasiment jusqu'à 350 avant notre ère, sont un peuple sans écriture et que donc, selon le principe établi en début d'heure, on ne peut pas corréler une culture matérielle avec un nom d'un peuple tant que sur un tesson, il n'y a pas le nom de ce peuple. Je vous remercie, je vous donne 5 minutes.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.